Radio Jenny, la plus rebelle des radios.
That boy you call is a diamond fella. All you little boys ever come in your parents. You fellow, but you fellows get clean like the cello. I'm doing my thing, you're jealous like a fellow. And you, what are you gonna do? Little boys get tame like the shoe. You midsummer dreaming, your tunes ain't appealing. I'm capturing your money, you ain't feeling. I am the Julius Caesar, hear me. The merchant of Venice, getting to your CV. As for me, all's well that ends well. Your boys like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not King Lear. I don't know about tomorrow, I know all's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your actions. I do it as you like. You much to do about nothing, all you do is buy it. I'm too tired, I don't need 12 nights. All your little tempers get murked on the mic. Of course, I am the one with the force. Your history just like Henry the IV. I better run like Pericles, place of fire. Off the scale, cold as a winter's tail. Tight as a Jonicus was bound to fail. So will you ever call again?
Bonsoir. Il est 19h, passé de 4 minutes. Et ce soir, nous allons parler de...
Alors ce soir, on va commencer par une triste nouvelle, même si des gens qui ont déjà écouté la radio dans la journée, n'importe quelle radio, sont vraisemblablement déjà au courant, mais en tout cas, Rachid Taha est mort. On va quand même s'écouter un petit morceau.
Et donc, nous parlerons ensuite de la loi Elan et on en fera une petite description.
L'État a été condamné pour l'expulsion illégale d'un squat de Rome, une histoire incroyable quand même, on n'aurait pas pensé que ça arriverait un jour.
Et la ministre de la Justice a dévoilé aujourd'hui les grandes lignes d'un plan censé faire baisser la surpopulation carcérale.
À la frontière franco-italienne, le refuge chez Jésus, dont on a peut-être déjà entendu parler, est menacé d'expulsion.
Et chez TCL, une rentrée rime avec Condé.
Ce n'est que le début, la température va sûrement augmenter, oui.
Yeah.
يتطرع لي الواحد يدايش يسلبك نهنا ويمرس راحي
Merci, merci Rachida. Et donc Rachida est mort la nuit dernière à l'âge de 59 ans. Bon, on va pas en faire une tartine funéraire, mais enfin quand même, on va rappeler que qu'il est de typiquement de la génération de Rebeu qui a grandi en France et qui a quand même été bercé largement autant par le rock, par le punk que par les différentes musiques orientales. C'est quand il était encore relativement jeune, il a été le chanteur de ce groupe qui s'appelait Carte de Séjour, qui en 86 a sorti la fameuse chanson Douce France, qui était une reprise de Charles Trenet. Ils sont allés à l'Assemblée nationale, qui à ce moment-là était en train de voter je ne sais trop laquelle des 32 000 lois pour restreindre l'immigration et essayer d'envoyer les Arabes dans la mer. Et à ce moment-là, ils sont allés à l'Assemblée nationale distribuer des tracts avec Charles Trenet en personne, qui est venu avec eux. Comme quoi Charles Trenet, comme ça, j'avais plutôt l'idée qu'il était à droite, en fait, finalement, pas tant. Voilà, et puis après, il a continué, il a vraiment fait des mélanges de reprises de chansons de Chaabi qu'il a extrêmement mélangé avec du rock'n'roll. Voilà, Rachida, merci, ciao.
Et on va parler un peu de la loi Elan.
On glisse maintenant à la rentrée. Alors bon, des fois, la rentrée, ça fait un peu, on traîne des pieds et tout, on était bien en vacances, toutes ces petites cartes postales, ces souvenirs et tout. Mais bon, aussi, la rentrée, c'est le moment où on revoit d'autres amis, où on se raconte ce qu'on a fait. Et puis, il y a aussi les mobilisations, parce que qu'est-ce qui se passe à la rentrée en général ? Bah, on apprend tout ce que le gouvernement a fait pendant les vacances. A passé en douce, a fait accélérer les choses et tout ça pour justement profiter des trêves estivales des syndicats militants et activistes, et etc. Alors voilà, et ben justement, moi je vais vous parler de la loi Elan. La loi Elan, c'est la loi d'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Alors c'est une loi qui est dans les valises du ministère depuis un petit moment déjà. Mais là, il y a eu une certaine accélération parce qu'elle a été votée à l'Assemblée nationale en juin dernier. Et puis elle est ressortie du Sénat le 25 juillet avec plusieurs mesures adoptées qui vont vraiment, vraiment précariser toujours plus les plus pauvres. C'est pas très étonnant, mais en tout cas, ça vient vraiment saper des choses au niveau du logement qui sont assez terribles. Et donc, comme le Sénat et l'Assemblée nationale n'ont pas sorti les mêmes textes, il y a une commission mixte paritaire qui est composée de 7 députés et 7 sénateurs-sénatrices, qui doit se réunir le 19 septembre, a priori la date a été beaucoup repoussée, pour arriver à un accord et pour mettre au plus vite cette loi en application, parce qu'il y a plein de gens qui l'attendent, enfin plein de gens, surtout les riches. Alors, qu'est-ce que nous réserve cette loi ? Je ne vais pas faire tous les articles, je vais résumer un peu les grandes mesures de la loi, mais vous pouvez aller notamment sur le site du droit au logement, du DAL, où vous pourrez trouver plusieurs articles sur la loi et sur ses futures conséquences. Mais plusieurs mesures phares qu'on a envie de parler ici, c'est notamment la pénalisation des occupants sans titre, sans droit ni titre. Alors qu'est-ce que sont les occupants sans droit ni titre ? Ce sont les squatteurs, les locataires au noir, les sous-locataires non déclarés. Ou tout, pour résumer, tout habitant ne pouvant prouver qu'il est installé avec l'accord du propriétaire. Donc, ces occupants sans droit ni titre, dans cette loi, vont être passibles de 1 an de prison et de 15 000 euros d'amende, d'une expulsion sans jugement et de la suppression de la trêve hivernale si le propriétaire porte plainte. En gros, c'est que la violation de domicile, qui était le fait d'entrer chez... dans un domicile, c'est-à-dire où des personnes habitent, elle a été étendue en fait à une violation de tout local d'habitation, même s'il est vide. Et du coup, ça devient pénal, en fait, de squatter. En tout cas, on peut avoir des procès au pénal pour squatter, ce qui va toucher un certain nombre de personnes et évidemment les plus précaires. Au niveau des logements sociaux, alors là, ils ont fait une petite pirouette. Normalement, les communes doivent avoir un quota de 25% de logements sociaux, en fait, de logements sociaux dans leur commune. Et puis là, ils se sont dit, ah non, on a mieux, on va faire une mutualisation des logements sociaux entre communes faisant partie d'une même communauté de communes pour atteindre ce nombre de 25%. Pourquoi ? Ben, en clair, pour que d'une manière, ils puissent garder des communes de riches avec peu de logements sociaux et des communes de pauvres avec beaucoup de logements sociaux. C'est super. Et puis d'autres choses comme des expulsions locatives accélérées, c'est-à-dire qu'avant, il y avait 2 mois de délai accordé avant l'expulsion, quand on passait en procès et qu'on n'arrivait pas à payer les loyers, etc., enfin qu'il y avait un procès, du coup il y avait 2 mois qui étaient accordés pour trouver des solutions, pour avoir accès aux services sociaux, des enquêtes sociales, etc., pour éviter justement d'avoir des expulsions par les flics, et ben ça va être réduit à 1 mois. Voilà, autant dire moins de possibilités de pouvoir trouver des solutions pour les personnes qui veulent ne pas se faire expulser par les keufs. Ensuite, d'autres choses comme la résiliation du bail de plein droit et donc l'expulsion de toute famille lorsque l'un des habitants du logement a été condamné pour usage ou trafic de stupéfiants. Alors ça aussi c'est pas mal, c'est-à-dire que si une personne se fait choper pour avoir consommé des drogues ou pour en faire un trafic, eh ben ça fait que tout le monde, toute la famille y passe, en tout cas toutes les personnes qui sont dans le même logement se font virer. Voilà. Ensuite, au niveau... il y a aussi également que les logements... donc il y a une loi, il y a quelques années, en 2005, il y avait vraiment toute une loi autour du fait de rendre les logements accessibles pour toute personne handicapée, et que tous les nouveaux logements devaient être adaptés. Et donc cette loi Elan, là, la nouvelle loi, elle revient là-dessus, et elle parle de logements adaptables et non plus adaptés. Et donc en gros, il y aurait 10%... 10% de construction de logements adaptés et 90% de logements adaptables, c'est-à-dire qui pourront être adaptés, mais après des travaux. Donc en gros, ça va conduire dans tous les cas à un moindre accès des personnes en situation de handicap à des logements, et que ce soit leur logement ou ceux de leurs proches, un moindre accès à n'importe quel cabinet médical, boutique, etc., qui seront rez-de-chaussée. Enfin voilà, c'est juste un gros retour en arrière, tout ça pour juste alléger les coûts de construction, en tout cas pour arranger les privés, enfin les sociétés immobilières, etc. Il y a encore d'autres choses, ça rétablit les pénalités en cas de retard de loyer, ça rétablit les amendes pour un non-respect de contrat de location, etc., des choses qui avaient sauté sur les dernières lois, et du coup là, voilà, tout revient. Finalement, il y a aussi la vente des HLM au secteur privé qui est vachement facilitée dans cette loi. Voilà, alors c'est super, hein. Une belle rentrée en perspective. Bon, il y a eu des appels à mobilisation. Il y a eu une journée de mobilisation nationale au 1er septembre, où il y a eu pas mal des manifs, je crois, surtout à Paris et puis dans quelques autres villes. Et puis il y a il y a des appels à mobilisation contre cette loi dans différentes villes, portés par des assos ou des collectifs de lutte sur le logement. C'est bien de se tenir au courant et puis de se mobiliser, de rester mobilisé. Voilà pour la rentrée.
Et donc, à quand la fin, l'arrêt de la propriété privée ?
Alors, vous allez voir, on dit tout le temps police partout, justice nulle part, mais une fois de temps en temps, figurez-vous que la justice, c'est-à-dire les gens qui sont payés pour faire la justice, figurez-vous qu'ils font réellement une sorte de justice, quoi. Et là, écoutez l'histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire dont on en a rêvé pendant tellement d'années, et bien là, ça s'est passé. Alors, cette histoire commence le 5 juin dernier, à un moment où un certain nombre de flics, en tout cas, on ne sait pas combien ils sont, mais ils sont plusieurs, se dirigent vers un petit terrain boisé à deux pas du port de Gennevilliers, c'est, si je ne m'abuse, en banlieue parisienne. Et ils arrivent et ils expulsent trois petites cabanes occupées par trois personnes roms. Alors, on va revenir sur l'expulsion exactement comment elle se casse. En tout cas, ces cabanes étaient occupées depuis le 30 mai, donc ça faisait 5-6 jours. Sauf que voilà, l'intervention des flics était illégale. Alors, vous allez me dire, des flics qui interviennent illégalement pour expulser qui que ce soit, oui. C'est pas comme si ça s'était fait extrêmement pour nous étonner. Sauf que là, c'est pas moi qui dis que c'est illégal. Figurez-vous que c'est le juge des référés du tribunal de Nanterre dans une ordonnance du 13 août 2018 qu'on trouve sur Internet, publiée par le collectif Rome Europe. Et là, l'article dont je m'inspire énormément, et c'est parce que ça a été relié sur le site Street Press. Et donc, le juge en question a condamné l'État à verser 1000 euros à chacune des trois personnes qui habitaient sur ce terrain pour voie de fait. En clair, faute de plainte ou de poursuite judiciaire, la police n'a pas le droit d'intervenir. C'est pas possible d'expulser sans décision de justice et sans respecter la procédure liée aux expulsions, rappelle Manon Fillonneau de Rome Europe, l'une des principales associations qui bosse avec les populations roms en France. Dans ce cas précis, le juge reconnaît même que les cabanes construites constituent un domicile. Le juge. Alors, les personnes qui habitaient dans ces cabanes ont aussi porté plainte au pénal, mais ça, pour le coup, ça sera jugé plus tard, notamment pour des faits de violence policière. Et alors voilà. Alors, pendant le procès qui a déjà eu lieu, donc celui du tribunal des référés, mais pas le truc au pénal, l'État a fait valoir qu'il n'y avait pas de preuve de voie de fait, faute de démonstration de l'expulsion et de la destruction des biens. En disant, non, en vrai, on n'a pas expulsé. Il y a effectivement des flics qui sont venus, mais ils n'ont pas expulsé. Et ils ont rien détruit et ils n'ont rien piqué. Le tribunal s'oppose à cette interprétation. Donc le tribunal, ça veut dire que c'est bien la décision finale. En s'appuyant sur un témoignage qui fait état d'une installation depuis le 30 mai 2018, dont l'existence est confirmée par des photos postées sur la page Facebook de l'association des bâtisseurs de cabanes, qui un truc des photos qui ont été postées le 30 mai. Donc les bâtisseurs de cabanes, c'est une asso, vous allez voir, elle a un rôle dans la suite de l'histoire. Ils ont une page Facebook. Le jour où les cabanes ont été construites, ils les ont prises en photo et ils les ont mises direct sur Internet. Et donc ça, c'est prouvable. Donc voilà, les gens étaient installés, c'est sûr, le tribunal l'a reconnu. Le tribunal souligne que les cabanes étaient occupées jusqu'au 5 juin et qu'elles ne l'ont plus été ensuite, suite à une opération de police dont l'existence, elle, est prouvée. Parce que les flics, eux, ils nient pas s'être rendus sur place. Et de toute façon, c'est aussi prouvé par le témoignage direct des personnes qui habitaient et par un témoignage indirect, on y reviendra, mais c'est le gars des bâtisseurs de cabanes qui était au téléphone avec les habitants pendant ce temps. En conséquence, le tribunal condamne l'État pour voie de fait caractéristique d'un trouble manifestement illicite, cette opération d'expulsion ayant été faite sans respect des règles, en particulier sans le jugement nécessaire au-delà du délai de 48 heures. Quand ça fait plus de 48 heures que vous êtes installé, un juge doit ordonner l'expulsion, autrement les flics n'ont pas à intervenir. En revanche, le tribunal estime que le groupe électrogène, qui selon les habitants a été pris par la police, alors voilà, les habitants ils disent on avait un groupe électrogène, les flics ils disent c'est pas vrai, jamais entendu parler, et là malheureusement il y a aucune preuve du fait que, alors il y a une preuve que, du fait que le groupe électrogène a existé parce qu'il y avait une facture, mais par contre le tribunal trouve qu'il n'y a aucune preuve qu'il était réellement sur le site, donc ça on laisse tomber. Les familles soutenues par l'association Les Bâtisseurs de Cabanes ont ainsi obtenu partiellement justice grâce à leur avocate, maître Julie Launois-Flasselière. Et le défenseur des droits a aussi été alerté et donc une plainte a été déposée auprès de l'IGPN. C'est la plainte au pénal dont je parlais plus tard. Donc, au moment de l'intervention, un peu avant 17h, un équipage de flics arrive sur le petit campement. L'intervention dure un peu plus d'une heure, une heure pendant laquelle les policiers détruisent les cabanes. D'après en tout cas ce que disent les plaignants. Et là, le président de l'association des bâtisseurs de cabanes, un gars qui s'appelle André Fégélès, lui était au téléphone avec un des habitants du camp pendant toute la durée de l'opération de police. Dans un témoignage qu'il a versé à la procédure devant le tribunal de Nanterre, il raconte la violence de l'intervention. Il dit « J'entends au cours de ces liaisons téléphoniques des insultes à caractère raciste sur les Roms qui ne devraient pas être en France, qu'il faut les dégager. J'entends des bruits d'objets renversés, des destructions, des pleurs d'enfants, des cris de femmes. Une des femmes du campement aurait ainsi été agressée par les forces de l'ordre. Dans la mêlée, un des policiers aurait également brandi un couteau », raconte André Fégélès. Son témoignage corrobore avec celui des plaignants, insiste le tribunal dans son ordonnance. De son côté, l'avocat de la défense... Ah ouais, non, mais ça, j'ai déjà dit. Et voilà, du coup, André Fégélès finit par avoir directement un des flics au téléphone. Le flic affirme qu'il y avait une plainte qui avait été déposée pour dégradation, que le propriétaire du terrain va venir, que la famille doit partir et qu'il obéit aux ordres. Quelques minutes plus tard, il a à nouveau une flic, cette fois au téléphone, qui se présente comme brigadier chef. Donc, M. Fégélès soutient que l'expulsion est illégale. La policière dit le contraire. Et elle dit que sa chef sait très bien ce qu'elle fait. Alors, qui est la chef de cet officier de police? Impossible de le savoir pour le moment. Devant le tribunal, l'avocat de l'État n'a produit aucune plainte comme celle qui a été évoquée par l'agent de police. Aucun document qui pourrait éclairer sur le cadre légal de l'intervention. Et la préfecture des Hauts-de-Seine, la mairie de Gennevilliers ont refusé toute demande d'interview de Street Press. En tout cas, voilà, c'est vraiment... je me suis un petit peu attardé, mais parce que c'est vraiment une histoire rare, celle de flics qui sont condamnés pour une intervention illégale sur une occupation sans droit ni titre, pour le coup.
Un plan prison permettant de réduire la surpopulation carcérale de 8000 personnes en proscrivant l'emprisonnement pour les très courtes peines a été présenté ce matin en Conseil des ministres. Ça a été annoncé par la garde des Sceaux dans un entretien au journal Les Échos. Et ce projet prévoit donc d'interdire les peines en dessous d'un mois. Tandis qu'entre 1 et 6 mois, la peine devrait s'exécuter par principe dehors. Donc, son projet réécrit l'échelle des peines, donc pour éviter les courtes peines. Mais la question qui me passe par la tête, c'est mais est-ce que cela va avoir pour conséquence d'augmenter les petites peines, du moins les petits délits, et les amplifier ?
D'augmenter les peines pour les petits délits, tu veux dire ?
Oui, pardon, ouais, okay. Oui, voilà, tout à fait. Et en dessous d'un mois, donc les peines d'emprisonnement, ils disent qu'elles seront interdites. Et donc, je lis la déclaration. On a fait de l'emprisonnement la peine de référence unique, ce qui est inefficace quand elle est de courte durée. Donc, une annonce comme ça peut justement voir augmenter les peines des petits délits. On ne sait pas, on verra. Et donc, la ministre s'est justifiée avec cette citation. Et elle souhaite développer les alternatives à l'incarcération, notamment les travaux d'intérêt général.
Donc là, on voit quand même bien qu'on est face à un gouvernement qui veut faire des économies. Voilà. Parce que je pense que c'est pas seulement je sais pas comment dire, leur but dans le fait de réduire le nombre de prisons, c'est de pas en construire plus, peut-être pour aussi faire moins de dépenses publiques.
Ils veulent en construire plus aussi.
Et donc moi je me suis dit, bah en fait c'est ça, c'est que la ministre de la Justice a donc concocté un plan avec le ministre de l'Économie pour garantir à l'État français de la main d'œuvre gratuite et inépuisable dans le temps. Et d'ailleurs, ça, cette question d'intérêt général, ça me rappelle la volonté d'obliger les RSAistes au travail bénévole. Je trouve que c'est un peu ces mêmes logiques de comment le travail de l'État, il est remis dans les mains donc, des gens ayant commis des délits et des RSAistes, bref, des pauvres. Donc, sinon, selon les derniers chiffres officiels, le nombre de personnes détenues dans les prisons françaises donc, s'établit au 1er août à 70 519. C'est toujours bien de rappeler le nombre de prisonnières. Et avec 59 870 places, ce qui est quand même énorme. Et donc, pour lutter contre cette surpopulation, le plan de la ministre prévoit de créer 7000 places de prison supplémentaires d'ici à la fin du quinquennat et de lancer d'ici à 2022 la construction de 8000 autres places, conformément aux vœux du président Emmanuel Macron. Alors on peut se demander si ceux qui font des courtes peines, ils construisent des prisons.
Peut-être.
Et donc, parmi ces nouvelles places, il y a 2500 qui seront construites donc, dans des maisons d'arrêt avec un haut niveau de sécurité. Donc, a détaillé Nicole Belloubet, alors que l'administration pénitentiaire est encore sous le coup de l'évasion le 1er juillet du braqueur Redouane Faïd, qui reste encore aujourd'hui introuvable et à qui on peut souhaiter bon vent. On ne pense pas qu'il nous écoute, mais au cas où, bon vent à toi. Et donc, une dernière petite info qui n'a rien à voir, parce que comme on parle de prison, parlons de flics. La hausse des tirs policiers s'est confirmée cet été. Il n'y a pas eu une semaine sans que l'on voit passer un article parlant d'un homme mort ou dans le coma suite à une intervention policière. Et comme souvent, l'Île-de-France est en tête des exactions de la police républicaine.
Alors, cette hausse des tirs, il y a eu vraiment une sorte de bond juste après la loi qui disait que maintenant, il y a un préjugé de
légitime défense
pour les flics. C'est-à-dire que si un flic tire sur quelqu'un, on commence par penser qu'il est en légitime défense et il faut prouver le contraire pour que ça ne soit pas le cas. Mais au départ, on considère ça directement. Et au moment où cette loi est passée, le nombre de tirs a directement explosé. Quoi. Enfin, je crois qu'il a été multiplié par 2.
Conséquence directe.
Le refuge autogéré chez Jésus, cette salle paroissiale occupée sous l'église de Clavière à la frontière franco-italienne, est menacée d'expulsion. Alors, chez Jésus, rappel des épisodes précédents pour les gens qui ne savent pas, mais du coup, la fameuse frontière franco-italienne, les migrants qui passent par la montagne, qui passent par ici, qui passent par là, c'est compliqué, c'est dangereux, il fait froid, les gens meurent ou risquent de mourir un peu régulièrement, et un certain nombre de militants, de plein de manières différentes, essayent de faire en sorte que les gens arrivent à passer. Ça passe par plein de mobilisations, la mobilisation des guides de montagne, par exemple, la mobilisation de gens qui viennent de loin aussi, juste pour ça. Et en tout cas, il existe cette salle, une salle paroissiale, qui est squattée par des militants au départ, mais maintenant par des militants et des migrants. On va revenir sur ce qui se passe un peu précisément. Et donc, voilà, c'est de la salle en question qu'on parle. Une plainte a été déposée depuis plus de 2 mois. Et il semblerait que le préfet exerce toujours plus de pression pour que l'évacuation se fasse réellement. Dans le même temps, l'État et l'Église, donc propriétaires des locaux, sont en train de s'engager pour trouver une alternative. Alors, l'alternative serait un lieu qui appartient aux Salésiens, c'est une communauté religieuse, louée par la Fondation Magneto. On va y revenir à la Fondation Magneto. Alors, Magneto, bien sûr, non, il ne s'agit pas...
c'est un X-Men
de Magneto, des X-Men, il s'agit de Anna et je ne sais plus quoi, Magneto, qui sont des grands industriels italiens. Et qui ont donc une fondation catholique qui supporte des projets. Donc là, en l'occurrence, c'est une salle qui appartient aux Salésiens, qui serait louée par la fondation Magneto et qui serait gérée par 2 employés de la fondation Talita Kum, qui est encore une fondation religieuse, une sorte d'espace de transit qui ouvrira dans un bled qui s'appelle Où. Alors ça s'écrit OULX, donc il s'appelle Où. Alors c'est où ? C'est à 15 km de la frontière, un lieu qui aura 15 places pour dormir, une petite cuisine pour les gens de passage. Une alternative à chez Jésus, comme nous le répète le prêtre engagé dans le projet, comme si un lieu géré par une fondation privée à 15 bornes de la frontière, qui a pour seule fonction d'être un dortoir avec des employés payés pour faire de l'assistance, pouvait être une alternative à ce qui existe aujourd'hui chez Jésus. Depuis des mois, depuis le début de l'hiver dernier, en fait, il y a au refuge des centaines de personnes qui passent, qui restent, qui vivent ensemble sur ce lieu, qui partagent le quotidien avec les personnes solidaires, donc qui sont plutôt des Européens, en partageant expériences, conseils, en trouvant toujours une porte ouverte, s'ils se sont fait virer d'ailleurs, en trouvant la possibilité d'échanger des témoignages après chaque abus de la police et trouver les moyens de les subir à nouveau. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui chez Jésus. À où, ça ne va pas être la même. À où le projet devrait démarrer la semaine prochaine ou celle d'après. L'idée serait que l'ouverture d'un lieu géré et contrôlé uniquement humanitaire permettrait pour le coup d'expulser plus facilement la salle de clavière, donc chez Jésus, qui à l'opposé, alors pour le coup c'est pas du tout uniquement humanitaire, c'est un lieu qui vit en autogestion, qui a toujours refusé le principe de gestion des personnes de passage. Mais l'Église et l'État s'accordent pour mettre un terme à cette expérience et le font en s'en lavant les mains avec l'ouverture de ce nouvel espace, celui de Où, qui est jugé complètement inutile par les gens qui bossent réellement avec les réfugiés à la frontière. Le refuge autogéré pose problème à l'État français et à sa police, qui l'accuse d'abriter des passeurs et de faciliter le passage des sans-papiers en France.
L'argument en terre est quand même toujours le même.
C'est ça. De toute façon, réellement, je veux dire, ils facilitent le passage des sans-papiers en France, vu que pour le coup, ils ont moins de chances de mourir dans la montagne. Ce qui est toujours une facilité. Abriter des passeurs, on a déjà parlé, on en reparlera d'autres fois, on ne va pas refaire aujourd'hui sur les passeurs. De compliquer les activités commerciales à clavière, ça aussi c'est un argument qu'on a déjà entendu ça et là, à d'autres endroits, à d'autres bouts de l'Hexagone par exemple. Clavière qui est une riche commune de montagne dont l'économie dépend largement du tourisme et qui a un peu peur que l'image de cette montagne qui est maintenant plus énormément un chemin de migration, que ça attire pas complètement les touristes. Et puis ça contrarie l'Église, qui se retrouve avec une salle paroissiale occupée et des factures d'eau et d'électricité à payer, ce qui a l'air d'être un peu un enjeu, les factures d'eau et d'élect de cette salle. Alors bien sûr, ça pose aussi problème à l'État italien. L'État italien, pour les gens qui n'ont pas allumé la radio pendant l'été,
vraiment pas, quoi.
Est aujourd'hui gouverné par une coalition de fascistes et de rouge-brun. Avec un ministre de l'Intérieur particulièrement nain. Alors voilà. Alors cette fondation Magnéto, c'est qui cette fondation Magnéto? Ça c'est son site. A été pensée comme une continuation dans le temps de son engagement sur le territoire et modèle de l'engagement social d'un entrepreneur moderne. Donc c'est un truc privé, esprit entrepreneurial, blabla blabla. Et donc il bosse avec cette fondation Talita Cum, qui elle est directement liée aux intérêts économiques de l'Église, qui a même cherché et obtenu justement des financements par la Fondation Magnéto à d'autres reprises. Bon voilà, en gros tout ça c'est l'Église dans sa version. Il y a des entrepreneurs riches qui filent de la thune pour gérer les pauvres.
Mais s'ils menacent un lieu d'expulsion à un lieu qui s'appelle chez Jésus, peut-être ça peut menacer un peu la religion catholique.
Oui, mais alors on dirait qu'ils ne le voient pas exactement comme ça, puisqu'ils vont le remplacer par un autre lieu qu'ils vont certainement appeler d'un joli nom aussi, mais qui dans la pratique sera... Parce que les gens qui ont baptisé ce lieu chez Jésus, pour le coup, c'est quand même plus directement nos camarades, quoi. Là, le nouveau lieu, on ne sait pas encore comment il s'appellera, mais...
Chez Dieu.
Chez Dieu, peut-être. En tout cas, les gens du refuge précis terminent leur communiqué en disant « De clavière, nous ne partirons pas et nous voulons dénoncer l'instrumentalisation qui est faite de cette expulsion. » Voilà, et ben à voir. En tout cas, le nouveau lieu, c'est pour mi-septembre et l'expulsion, on ne sait pas encore quand, mais en tout cas, ça commence à craindre. Ça peut... Les gens qui se demandent quoi foutre cet automne, c'est pas impossible qu'il y ait un moment où ça vaille le coup d'aller faire un tour là-bas.
Et alors, ça fait un espèce de mini-point agenda quand même au milieu de ce Canu Info, mais pour vous dire qu'on est bien le 12 aujourd'hui. Je plane pas, ouais. Et ben du coup le 12 donc ce soir ça a commencé à 19h, donc si on vous fait chier vous pouvez partir à l'amicale qui est située 31 rue Sébastien Griff. En tout cas ça dure jusqu'à 21h, donc vous avez le temps, où a lieu un point d'information sur la situation italienne et présente le camping itinérant Passa Montagna, qui aura lieu du 19 au 23 septembre au col de Mont-Genèvre, soit 5 jours de partage et d'expérience, de pratique, de lutte lutte autour des frontières. Voilà le programme.
Et pour le coup, vous entendrez certainement reparler de l'information que je viens de donner parce que c'est vraiment au même endroit, quoi.
Voilà. Et alors, on revient sur de l'actualité lyonnaise. Et car si vous êtes tout nouveau ou toute nouvelle sur Lyon et que vous utilisez les TCL, vous n'avez sans doute pas raté la présence massive de contrôleurs ainsi que la présence massive de personnes faisant la queue au guichet des agences TCL pour faire leur carte d'abonnement. C'est normal, c'est la rentrée des étudiants et des lycéens. C'est pour mettre la pression, c'est pour faire croire que c'est tout le temps comme ça. Non, rassurez-vous, c'est juste souvent comme ça. Là vous vous dites normalement pourquoi ne pas mettre ces contrôleurs derrière un guichet. Il serait bien plus utile que pour aider les gens qui essayent d'être en règle plutôt que de leur foutre une amende quand ils n'ont pas réussi. Bref, bienvenue à Lyon et son entreprise Keolis, qui se définit comme, je cite, un opérateur privé de transport public, autrement appelé une raclure de bidet. Keolis donc a une obsession, c'est donc le contrôle. Et comme ils ont l'air d'en chier un peu face aux galériens qui fraudent et qui n'ont rien trouvé d'autre que de ne pas payer leur ticket de bus, ils ont décidé de faire appel à une société externe pour mener des contrôles d'opération. Et alors, ça marche depuis septembre, à titre expérimental, comme ils disent. Vous pouvez être contrôlé non pas par des agents TCL, mais par des salariés de la société lyonnaise SCAT, SCAT, basé à Saint-Genis-Laval. Bon, et soyons clairs, comme le but des Keolis c'est de, je cite, concentrer sur le centre-ville au sens large et limiter ainsi le déplacement des agents sur des secteurs plus éloignés, donc par déduction, les premiers touchés par la radicalisation du contrôle seront donc les banlieusards. Radicalisation parce que la SCAT, quand même, en 2017, est responsable d'un contrôle musclé et les contrôleurs sur le terrain sont surnommés les shérifs par Force Ouvrière, je sais plus comment ça s'appelle la société à Montpellier. Voilà, leur but étant de faire du chiffre. Alors ils n'hésitent pas à trouver que les gens ils ont validé leur ticket à vue. Vous voyez, c'est quand on se poste vers le rodateur avec le ticket en main, dès qu'on les contrôleurs, bim. Donc à dire ça alors que c'est pas forcément vrai. Enfin bref, voilà, ils sont là pour foutre des sous dans leur société, encore plus que les contrôleurs de TCL qui peut-être pour certains ont plus un espèce de truc de fonctionnement du service. Non, eux, leur but c'est que leur société rapporte du chiffre pour justifier leur salaire. Voilà, affaire à suivre. En espérant que cette période ne soit pas concluante pour la SCAT.
Et puis on peut rappeler quand même que le ticket de TCL est à 1,90€. Donc plus il augmentera, plus il va y avoir de fraudeurs, parce que payer 1,90€ par trajet, même d'une heure, c'est beaucoup d'argent et beaucoup de gens ne peuvent pas se le payer. Et quelle nouvelle de rentrée, je viens d'ouvrir le magazine lyonnais et rhône-alpien Hétéroclite. Hétéroclite, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mensuel gratuit.
Qu'on trouve dans le hall de la radio, entre autres.
Voilà, entre autres, mais dans plein de lieux, à Grenoble, Saint-Étienne et Lyon. Un mensuel LGBT qui se définit mensuel gratuit gay, mais pas que, et qui existe depuis 2006 et qui relaye les événements artistiques et militants des communautés, on va dire, ouais, voilà, plus LGBT, mais transpédéguines aussi, et féministes. Et je viens d'apprendre, en ouvrant le numéro de septembre 2018, que donc le rédacteur en chef du magazine, Romain Vallet, qui a chroniqué tous les éditos depuis 2006, eh bien, s'en est allé. Et voilà, moi je voulais faire un petit clin d'œil parce que j'aimais beaucoup lire ces éditos. Je les trouvais souvent pertinents, qui mêlaient pas mal de questions ensemble autour des questions de sexisme, racisme, d'homophobie et de transphobie et de lien avec la société, du moins du gouvernement. Voilà, donc petit changement, du moins moi je trouve grand changement à Hétéroclite, et donc je voulais faire ce petit clin d'œil. Et pour finir, un mini agenda pour ma part, en tout cas juste pour annoncer une date, si je retrouve le papier. C'est pas tout de suite encore, mais c'est le 20 septembre à 19h. Il y a le collectif lesbien lyonnais et la librairie Ouvrir l'œil, qui est dans les pentes de la Croix-Rousse, qui est une très chouette librairie, qui organise une rencontre autour du dernier roman de Wendy Delorme, Le corps est une chimère, qui vient d'être édité au Diable Vauvert. Et ce livre, je ne l'ai pas encore lu, il est nommé, en tout cas dans ce que j'ai vu comme communication autour, comme un roman choral. Donc c'est sept personnages qui vont dialoguer et j'imagine se rencontrer dans ce livre, mais je n'en sais pas plus. Donc la rencontre aura lieu à la librairie au 18 rue des Capucins. Et Wendy Delorme lira des extraits de son roman. Et si vous loupez l'événement, le 20 octobre à 15h, il y aura une rencontre également à la librairie Terre des Livres, qui est cette fois la Guillotière, 86 rue de Marseille.
Eh bien, il est à 19h45 et ce Canu Info touche à sa fin. En attendant, est-ce qu'on vous dit à la semaine prochaine ?
Ouais, non, on ne vous dit, plutôt
vous dit pas à la semaine prochaine. Mais par contre, la semaine prochaine, juste avant nous, il y a une émission qui arrive.
La toute nouvelle émission Mayday Mayday.
Voilà, qui fera ça donc sa première.
À 18h, à l'heure où il y avait l'année dernière la méga combi.
On prend les mêmes et on recommence.
Ensuite, vous allez vous écouter 45 minutes, un peu moins, deux bandes continues. Et juste après, vous retrouverez l'émission Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Et parce qu'il nous reste quelques minutes et que moi, au final, je ne l'ai jamais écouté, on vous laisse avec ça.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans parole, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur.